Je vais maintenant vous présenter donc Patrick Mignon. Patrick Mignon est né en 1950, il est sociologue, il est responsable du laboratoire de sociologie de l'INSEP. Concernant ses domaines de recherche, donc il est spécialiste de l'évolution des pratiques sportives, des transformations du sport de haut niveau. Il conduit en ce moment une recherche sur les processus de professionnalisation des athlètes et des entraîneurs de haut niveau. Et il est spécialiste aussi des relations entre le sport et l'éthique, notamment en travaillant sur les aspects sociologiques du dopage. Concernant ses publications, il est l'auteur de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il est également l'auteur d'ouvrages et de rapports, donc je vais vous en citer quelques-uns. Concernant les rapports, le rapport La société du samedi, supporters ultra et hooligans, paru en 1994, La lutte contre le hooliganisme en Angleterre, Allemagne et Pays-Bas, qui est une étude comparée, parue en 1997 pour l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, Les clubs de football professionnels et le supporterisme, quelle politique, en 1999, pour la Commission nationale mixte de sécurité de la Ligue nationale de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et avec Guy Truchot, Les pratiques physiques et sportives des Français, aux éditions de l'INSEP, à paraître donc en juillet 2002. Concernant ses livres, il a écrit Le rock de l'histoire au mythe, chez Anthropos en 91, aussi Drogue, politique et société, Le Monde édition en 92, et enfin La passion du football, chez Odile Jacob en 98. Patrick Mignon, donc, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons un débat avec le public d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup.
Bien. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, et je suis vraiment très honoré d'avoir été invité à ce cycle de conférences. Et bien qu'habitué à l'atmosphère de haut niveau qui règne à l'INSEP, je suis quelque peu impressionné par les circonstances, et j'espère que ma prestation, c'est-à-dire ma performance, vous apportera quelques satisfactions ou aura quelque intérêt pour vous. Compétition et performance sont sans doute aujourd'hui les mots les plus familiers pour définir ce qu'est le sport. Le sport est en effet un univers de compétition physique, institutionnalisé, démocratiquement organisé, aux règles unifiées et aux rencontres planifiées, ce qui le distingue des jeux qui l'ont précédé, Jeux olympiques par exemple, ou jeux traditionnels, comme l'en distingue le goût du calcul, la valorisation du progrès et du dépassement de soi, tout ce qui se trouve subsumé sous la catégorie de performance. De plus, prise dans son sens anglo-saxon, cette dernière notion de performance ouvre vers une autre dimension fondamentale du sport contemporain, celle du spectacle. Le sport, ou une bonne partie du sport, est une activité qui se déroule devant des spectateurs. Il y a, contenu dans ces deux mots, les éléments d'une dynamique interne qui permet de saisir ces évolutions. Les contraintes de la compétition et de la performance sont de puissants moteurs pour la rationalisation d'activités qui s'offrent progressivement à la réflexion des tacticiens, au regard des scientifiques, aux projets politiques et aux calculs économiques. Tout comme les aléas de la compétition ou la manière d'obtenir la performance recherchée peuvent permettre de rendre compte de l'engouement pour le spectacle sportif. Les catégories sportives nous intéressent donc aussi, car ce sont les mots qui définissent notre temps, la compétition généralisée et l'obligation d'être performant, et qui nourrissent l'expérience de l'individu démocratique, s'interrogeant sur la justice, la juste hiérarchie, sur l'égalité des chances ou sur les mérites respectifs de l'individu et du groupe dans la réussite sociale, ou encore sur la manière de répondre aux nouvelles exigences de l'autonomie, de la responsabilisation et de la compétitivité. Puisque les mots sont les mêmes dans le sport et dans la société, l'interrogation se portera donc aussi sur les liens existants entre l'univers du sport et la société et sur la manière dont on peut les penser. Miroir, le sport est-il un miroir de la société? Une illusion, ce qu'on connaît par exemple sous la formule du sport comme opium, du peuple. Un modèle d'excellence, par exemple, ou pour reprendre des concepts qui était très, très à la vogue il y a quelques décennies, un appareil idéologique d'État qui transmettrait, qui ferait passer à travers une activité les préceptes, les normes de la société capitaliste. À travers la signification du concept de compétition, on peut apprécier en quoi il existe bien un monde du sport doté de valeurs spécifiques qu'on peut comparer, mais qu'on ne saurait réduire à celles qui gouvernent l'économie ou la politique. Donc, une des idées qui guidera un petit peu le fil conducteur de cette intervention sera celle, effectivement, de réfléchir sur la question ou de proposer de réfléchir à la question de l'autonomie du sport comme sphère avec ses propres règles de fonctionnement et ses propres valeurs. Avec le concept de performance, c'est un autre problème qui est posé, c'est celui de la place qu'on peut assigner dans une société à un univers qui se définit par le dépassement permanent et, de façon générale, le jeu avec les limites. Alors, ce petit préambule visait un petit peu à situer la conférence dans le cycle, dans ce qui donne un petit peu qui peut donner son sens. Le cycle, la religion du sport. Il s'agit bien de trouver, me semble-t-il, ici un sens, un engouement très massif, ce qui semble sans équivalent aujourd'hui. Les chiffres de 37 milliards de personnes ayant regardé les 64 matchs de la Coupe du Monde 1998 et le 1 700 000 personnes ayant regardé la finale donnent une échelle de cet engouement pour le sport, qui est un engouement qu'on qualifiera facilement, dans ce cas-là, de planétaire. Des chiffres qu'on pourrait retrouver de façon un petit peu équivalente en s'intéressant, par exemple, à des événements comme les Jeux Olympiques. Donc, effectivement, ce qui va situer le sport dans une problématique proche de celle de la religion, c'est qu'on a bien quelque chose ici qui rassemble, au-delà des différences, qui paraît effectivement être porteur de valeurs qui transcendent les différences culturelles. Une autre raison de situer effectivement le sport dans cette réflexion sur la religion, c'est bien par exemple le projet coubertinien, c'est-à-dire le projet de Pierre de Coubertin, fondateur, refondateur de l'olympisme à la fin du XIXe siècle, qui voit bien le mouvement qu'il essaie d'initier comme une nouvelle religion qui viendrait remplacer une religion chrétienne, quelque peu en perte de vitesse, et qui viendrait concurrencer les religions, ce qu'il qualifie de religions, comme par exemple le socialisme émergent à cette époque, et l'olympisme à travers ses valeurs, à travers les valeurs universelles du sport, les valeurs du fair play, les valeurs de la juste compétition, de la juste concurrence, viendrait justement proposer, à travers le dépassement qu'elle donne, qu'elle impose aux individus, servirait hein, de nouvelles religions capables d'unifier l'humanité. Mais il y a aussi une pente qu'on trouve fréquemment, aussi bien parmi les journalistes que parmi des personnes du monde universitaire ou académique, qui est d'utiliser effectivement le vocabulaire religieux pour parler des manifestations sportives. On parlera de fidèles, on parlera pour les stades de grand-messe, on parlera des officiants, les joueurs... Et on pourra décrire éventuellement tous les rituels qui sont attachés au sport, le fait qu'effectivement on doit respecter un certain nombre d'ordres, il y a une régularité dans le calendrier, etc. Toutes choses qui peuvent rapprocher le sport des phénomènes religieux traditionnels. On évoquera aussi peut-être à ce moment-là les activités des sportifs qui tentent de se prémunir contre le mauvais sort et d'amadouer la chance en restant fidèles à une tenue qu'ils avaient lors de leur première victoire, ou bien de fétiches qu'ils cacheront dans leur valise. On parlera aussi de pèlerinages effectués par les supporters d'un club de rugby, de basket ou de football sur les lieux d'un saint local pour porter chance à l'équipe qu'ils soutiennent. Or, on a de bonnes raisons, effectivement, de comparer le sport à une religion. En même temps, si la compétition rassemble, elle ne renvoie pas à la transcendance qui donnerait finalement un sens ultime à la société. La religion du sport ne donne pas de vérité sur la société. Elle renvoie beaucoup plus à ce qu'on met en œuvre pour maîtriser son destin, ce qui me paraît, le sport envoie beaucoup plus finalement à la manière dont justement la transcendance a disparu pour la reporter sur des individus tout à fait immanents que sont les sportifs. Une autre manière de situer la conférence, c'est aussi de la situer par rapport finalement séance qui la précède ou qui lui succède. Alors il se trouve qu'ici, la performance et la compétition sont prises en sandwich entre le dopage et l'économie. C'est-à-dire que on a, à travers ces deux questions, la question du dopage et la question des rapports entre l'argent et le sport, donc la question de l'économie, encore que la question de l'économie soit autre chose que la question du rapport à l'argent, par exemple, deux mises en question du sport. Aujourd'hui, on évoquera, par exemple, deux menaces, par exemple, du côté du dopage, c'est la question de la santé, c'est la question de la triche. Du côté de l'économie, c'est les excès d'argent dans le football, c'est la bulle spéculative, par exemple, du football ou de la Formule 1. Et avec cette idée que ce soit le dopage ou que ce soit l'argent, ces deux phénomènes viennent mettre en question les valeurs mêmes du sport qu'on pourra identifier, la pureté de ses intentions, par exemple, qu'elle transforme les enjeux du sport, notamment à partir de ces deux catégories, de ces deux notions que sont la compétition et la performance. Un troisième manière de situer cette conférence, c'est aussi de la situer par rapport à un statut très général du sport de notre société. C'est-à-dire qu'à la fois, on a bien un engouement des spectateurs, il est incontestable, et les téléspectateurs pour toute une série de sports, mais en même temps, une certaine réserve des élites culturelles et intellectuelles qui, même si les choses ont quelque peu changé depuis une petite décennie, restent assez volontiers méfiants vis-à-vis de cette capacité du sport à rassembler, à mobiliser les passions. Et d'ailleurs, les termes qu'on utilisera, justement, la passion, l'engouement, pourront être considérés comme quelque chose qui dénote, du côté du sport, un rapport avec des forces qu'il faudrait maîtriser si on voulait véritablement mettre en place une société plus humaine et plus rationnelle. Et là-dedans, effectivement, encore, la compétition apparaît comme un principe discutable, parce que, par rapport aux idées qu'on pourrait se faire de ce que sont les hommes et les relations entre eux, la compétition, qui implique effectivement la rivalité, le conflit autour de mêmes enjeux, apparaît justement comme quelque chose de contradictoire avec des idéaux plus élevés d'humanisme. Enfin, le dernier point, et ceci pour resserrer un petit peu le propos, Georges Vigarello vous évoquera les rapports entre sport et société, ce que moi, en tant que sociologue, je peux difficilement éviter. Si je parle de la performance et de la compétition, c'est bien en tant que sociologue, et parce que, à travers la question de la compétition et de la performance, c'est bien de la société dont il s'agit, de sa présence dans le sport, du sport comme fait social, susceptible d'interroger, de décrire la réalité d'aujourd'hui. Mais en même temps, ce que je voudrais, dans ce dernier petite mise au point, c'est limiter le propos à une époque et à un niveau du phénomène sportif. Le sport, je dirais, on pourrait passer une heure et demie de discussion et de présentation des différentes définitions possibles du sport. Mais disons qu'on aura une définition très large qui considérera, par exemple, que le sport, c'est toutes les activités physiques, volontaires, faites durant le temps de loisir. De même qu'on pourra considérer que le sport, c'est toutes les activités dans lesquelles les gens se sont affrontés dans les règles, affrontés physiquement dans les règles, et qu'on peut faire remonter à la plus haute antiquité, si ce n'est à la préhistoire. Mais on peut aussi prendre une définition un peu plus étroite du sport, c'est celle que j'ai choisi de voir aujourd'hui, qui limite en fait le sport à une époque historique, disons en gros à partir du XVIIIe siècle, donc disons que ça correspond à ce qu'on appelle volontiers la modernité, et d'autre part à un sport dans lequel la question de la compétition et de la performance sont plus spécialement posées, à savoir le sport de haut niveau ou le sport professionnel. Alors pour vous donner un exemple et pour vous un exemple à la fois de ce que signifie ce rétrécissement de la préoccupation et en même temps de ce qu'est le travail qu'on a pu faire sur les pratiques physiques et sportives des Français. Bon, Si je prends par exemple le sport dans une notion très très large, je vais pouvoir compter en France une trentaine de millions, un peu plus de 30 millions de personnes qui se sont livrées pendant l'année écoulée précédant l'enquête à une activité physique ou sportive qui pouvait aller de la marche à la pêche jusqu'au football. Par contre, si je prends une définition un peu plus étroite et plus précise, si par exemple je m'interroge simplement, ou j'essaie de chercher simplement les gens qui se sont engagés dans le sport de telle manière que, en gros, chaque semaine, ils rencontrent d'autres équipes dans le cadre de compétition pour obéir, respecter les règles du jeu sportif dans le cadre de club. Là, j'arrive à, selon nos estimations, un chiffre beaucoup moins élevé qui avoisine les 6 millions. Et lorsque, à cela, j'ajoute un point complémentaire qui est de dire à quel type de pratique sportive je m'intéresse lorsque je parle du sport de haut niveau, du sport professionnel, je vais m'intéresser à une dizaine de milliers de personnes qui sont d'un côté les sportifs professionnels opérant par exemple dans les clubs de football, dans les clubs, dans les équipes cyclistes, dans les clubs de basket professionnels, etc. ou en tennis. Et ce qu'on appelle en France les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire les athlètes qui sont préparés à participer à des compétitions comme les Jeux Olympiques, les Championnats du monde, d'athlétisme ou d'autres disciplines de judo, etc. qui ne sont pas nécessairement des professionnels, au sens strict du terme, puisqu'ils ne touchent pas d'argent pour leurs prestations, mais qui n'en sont pas moins des personnes qui investissent l'essentiel de leur temps dans la pratique sportive. Je dirais déjà, on a ici un exemple des effets de la logique interne de la compétition. La logique de la compétition, c'est entre autres ce qui oblige, pour accéder au meilleur niveau de la compétition, de consacrer le maximum de son temps à la préparation du sport. Et à ça, bien sûr, il faudrait que j'ajoute les milliards de téléspectateurs qui regardent ces 10 000 sportifs. Alors, les milliards, non, parce qu'on est en France, donc les millions de téléspectateurs qui regardent, je multiplierai ce chiffre par le nombre de pays pour avoir effectivement ce rapport entre les sportifs de très haut niveau opérant dans le monde et les téléspectateurs. Donc, l'idée, si vous voulez, est la suivante. En partant de ces deux notions de compétition et de performance, on peut analyser, on peut présenter une certaine évolution. Hein, ça permet de comprendre finalement une évolution interne, la constitution par exemple du sport comme activité spécifique, différente des jeux. Et d'autre part, une évolution de ce sport en raison, si on veut, de l'obligation qu'impose le fait de produire des compétitions ou de produire de la performance. La première chose, je crois, qu'il faut dire, c'est que la compétition préexiste, bien évidemment, au sport, hein, tel que je l'ai défini tout à l'heure. Les Jeux Olympiques, c'est bien de la compétition. On peut interpréter les tournois comme des compétitions. Tous les jeux physiques traditionnels sont bien des compétitions. De même que la compétition n'est pas seulement celle des jeux et celle du sport, mais c'est bien sûr toutes les situations dans lesquelles des individus se retrouvent dans la situation de vouloir obtenir les mêmes avantages, et cela peut porter dans le champ économique, le champ politique, le champ culturel ou symbolique. Ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est le moment où ce processus, qu'on peut comme ça dater, si vous voulez, à la deuxième partie du XVIIIe siècle, dans lequel on assiste à un mouvement de codification et de réglementation de toutes ces pratiques physiques existantes, et d'autre part, d'une distinction entre ce qui est le sport et ce qui est, justement, ces autres formes de compétition que pourraient être la politique ou l'économie. On réglemente, qu'est-ce qu'on réglemente ? Sur quoi va-t-on intervenir ? Par exemple, il est tout à fait important, et c'est là la thèse par exemple qui est développée par Norbert Elias, qui est sans doute parmi les sociologues ou historiens, comme on voudra l'appeler, de réputation, est un des seuls qui ait consacré du temps et un travail intellectuel d'importance, un des premiers, à la question du sport. Quelle est son hypothèse ? C'est de considérer que le sport, la codification, donc les sports, ces réglementations sportives, viennent d'enjeux politiques, notamment la monopolisation par l'État de la violence qu'on retire aux autres membres de la société, hein, notamment à l'aristocratie. D'autre part, à la transformation d'élites politiques sous l'effet de la parlementarisation, c'est-à-dire la création notamment, et là on se retrouve en Angleterre du 8e siècle, le fait que la lutte politique se traduit non pas par un affrontement entre des groupes, comme c'était le cas par exemple pendant la guerre civile anglaise quelques décennies auparavant, mais par une lutte entre des partis qui luttent pour obtenir le pouvoir. Donc la transformation de une pacification des mœurs politiques, en même temps que l'enjeu politique sera aussi de réagir contre les désordres populaires, et notamment les désordres populaires tels qu'ils peuvent être occasionnés à l'occasion des fêtes locales dans lesquelles justement se déroulent ces activités physiques et ces affrontements. Cette codification, on peut aussi la lier, toujours sur le plan politique, aux rivalités existantes entre les partis politiques qui, en Angleterre, se disputent le pouvoir à l'époque, les Whigs et les Tories, dans lesquels il y a un enjeu notamment dans l'organisation des jeux populaires. C'est-à-dire qu'on peut par exemple considérer, c'est là encore si on reprend les travaux des historiens, considérer qu'un sport comme la boxe, hein, qui est sans doute un des premiers sports, on peut considérer que la boxe est un des premiers sports codifiés, peut être analysé justement comme cette alliance finalement entre la gentry, c'est-à-dire le gentleman campagnard en quelque sorte, en lutte contre les nouvelles élites urbaines en Angleterre à l'époque, qui s'allie à travers les jeux populaires avec la population, les paysans, les petites gens des villes et des campagnes, et qui donc organise ces divertissements populaires pour s'attacher finalement les bonnes grâces de gens qui ont toujours apprécié l'affrontement de la force dans les foires et autres manifestations. Mais on retrouverait aussi cette travail de codification à travers, par exemple, l'élaboration des règles de la chasse aux renards ou bien la systématisation des courses de chevaux. Ce troisième point nous amène à un élément qui, je crois, est fondamental dans cette organisation du sport, c'est cette rencontre, finalement, entre les enjeux que représentent déjà à l'époque les compétitions qui se mettent en place, que ce soit match de boxe, que ce soit lutte ou que ce soit course de chevaux, et qui, par exemple, intéressent sous la forme du pari. Hein, si vous voulez parier, si vous voulez, je dirais, pouvoir parier avec les meilleures chances, il est préférable que les règles du jeu soient claires. Hein. Donc je pense qu'on peut insister peut-être plus souvent qu'on ne le fait, ou en tout cas le redire plus fortement, que le pari est sans doute, l'existence de paris sur des compétitions constitue un élément tout à fait important du développement de réglementation pour rendre justement les chances de paris justes. Je vous rappelle que dernièrement, si vous avez suivi l'actualité en sport automobile, la victoire de Schumacher contre je ne sais plus quel grand prix dans lequel son écurie lui demande à celui qui était en tête, son coéquipier Barrichello, de se retirer de manière à ce que lui passe le premier la ligne et remporte le maximum de points pour le classement, a été dénoncé en premier lieu par les parieurs. Hein, c'est les parieurs qui trouvaient que l'éthique sportive était bafouée lorsqu'on faisait passer Schumacher devant Barrichello, parce que bien évidemment, l'intérêt du parieur, c'est de trouver la petite cote. Hein. Donc, il y a dans cette réglementation quelque chose donc à voir de ce côté-là. Deuxièmement, cette question du pari, il faut aussi la mettre en relation, je crois, avec le développement à partir du 18e siècle, enfin, bien avant, hein, bien sûr, mais en tout cas, cette extension, en tout cas, de toute un ethos, hein, un plaisir, une application du calcul à l'ensemble des activités humaines, hein, et par exemple, qui nous ferait, histoire de jouer sur les mots, passer de la mesure qui définissait une certaine excellence du sport un siècle auparavant à la mesure du nouveau sport. la mesure du XVIe, du XVIIe siècle. C'est un sport qui est organisé, codifié, dans lequel finalement quasiment les affrontements disparaissent au profit de figures, soit de chevaux, soit d'armes, soit même de danse, dans lesquelles que doivent réaliser les gentilshommes, qui s'opposent à la... Donc, où l'on doit mesurer et contrôler son comportement, contre la mesure qui consiste justement à savoir combien un cheval a mis pour parcourir telle distance et comment tel cheval est éventuellement meilleur que tel autre. Le quatrième point sur lequel on doit aussi insister pour cette origine de la codification, c'est bien évidemment peut-être ce qu'on connaît quelquefois le mieux, c'est la réflexion finalement pédagogique dans les écoles anglaises du début du XIXe siècle concernant la meilleure manière de former les élites de l'Empire britannique, de la manière de maintenir l'ordre finalement ou de rétablir l'ordre dans ces écoles et de la façon aussi de distinguer ceux qui dans ces écoles relèvent effectivement de la plus haute élite et de nouvelles élites pour lesquelles les exigences pourraient être différentes, en tout cas dans lesquelles il y a une compétition pour produire les individualités qui seront les plus aptes à diriger l'Empire britannique. Puisque on sait que c'est là que s'invente, comme on le sait, à partir des jeux pratiqués par les élèves et à travers des tentatives de réglementation et de codification de ces jeux, des sports aussi populaires que le football et que le rugby. Alors, pourquoi ce petit rappel ? Simplement pour relativiser par rapport peut-être à une idée qu'on peut avoir finalement d'un sport qui serait défini essentiellement, ou plutôt principalement, par le discours de l'olympisme, de bien voir que cet olympisme, lorsqu'il se développe contre, d'une certaine façon, toute une culture du sport préexistante dans lequel la question du divertissement, la question du spectacle, la question du pari, la question des enjeux est déjà extrêmement présente. Et que quelque part, l'olympisme, c'est effectivement quelque chose qui veut purifier le sport de ses enjeux extérieurs à l'activité elle-même. Mais quoi qu'il en soit, que l'on donne au sport une, je dirais qu'on l'intègre finalement dans les pratiques existantes et qu'il supporte des activités aussi profanes et discutables que le pari, un peu d'importance parce que finalement ce qui se passe est ce même mouvement finalement de réglementation, de régulation de la compétition, de création de nouveaux enjeux justement à partir de ce principe que on doit organiser une compétition physique qui assurerait la meilleure égalité entre les participants et qui donc, de ce point de vue-là, à travers ce jeu de la compétition, provoquerait, mais sans qu'on le veuille directement, la performance, c'est-à-dire la manière de se comporter lors d'une compétition, d'obtenir le meilleur résultat, un peu comme un sous-produit de cette compétition, mais en même temps, comme un sous-produit de cette compétition, apparaissent aussi les éléments de dramatisation du sport et de ce qui fait son intérêt, c'est-à-dire la surprise, le suspense, la dramaturgie, etc. Donc à partir de là, on peut considérer que se met en branle tout un dispositif d'organisation qui vont petit à petit assurer cet développement du sport et son autonomisation par rapport à la fois aux jeux populaires, la rupture avec eux, mais aussi par rapport à d'autres domaines de la société. On ne peut bien évidemment pas couper cette naissance du sport et de ses règles, du contexte dans lequel il se déroule à l'époque, qui est d'un côté la naissance d'un marché du temps libre, qui est lié par exemple à l'urbanisation et qui est lié aussi aux avancées progressives des réglementations sociales qui dégagent non seulement pour l'aristocratie et pour la bourgeoisie, mais aussi pour les classes populaires du temps dans lequel il peut dépenser l'argent ou en tout cas prendre, se détendre par rapport à son travail, et d'autre part au mouvement d'unification nationale et internationale, unification nationale qu'on pense au fait que bon, dans un pays comme la France, avant 1914, la France existe bien évidemment, mais que l'unité nationale en termes d'une langue partagée, de référence partagée, est encore loin d'être acquise et qu'il faudra, ça pas le sport qu'il produira, ça sera il y a 14-18 qu'il fera, mais en tout cas, je veux dire, le sport s'inscrit aussi dans cette unification nationale, de même qu'internationale, avec à la fois bien évidemment le colonialisme. L'Angleterre exporte son sport à travers les élites qu'elle forme, à travers le commerce, à travers les échanges économiques et les échanges technologiques de l'époque. Le sport suit finalement la route commerciale, de même qu'il suit la route de l'installation des voies ferrées un peu partout sur le continent européen, sur le continent sud-américain ou en Asie. Et on comprend aussi pourquoi l'Angleterre se trouve, de ce point de vue-là, être beaucoup plus fortement que les autres à l'origine de cette conception du sport, à la fois parce que c'est elle qui apparaît en pointe dans cette pacification des mœurs politiques et dans la définition d'autres champs de compétition entre les hommes, mais aussi parce que sa puissance coloniale et sa puissance commerciale à l'époque en font effectivement le pays symbole de la modernité que tout le monde voudra imiter. Hein, et donc on peut analyser cet essor du sport de compétition à travers l'anglophilie, le modèle d'excellence défini par les Anglais. Et la démocratisation du sport, à travers la démocratisation progressive, très très modeste dans un premier temps du temps libre, va aussi de pair. Cette unification aussi du marché national à la fois par les transports, notamment par les transports, qui sont tout à fait importants dans le domaine du sport, assure cette augmentation des spectateurs, donc des ressources, et donc aussi cet emboîtement qui va être très très important dans ce jeu de la compétition entre les différents niveaux d'identité, identité locale, identité nationale, identité cosmopolite, liée au commerce international. Donc on peut donc décrire une carte de la diffusion de ce principe de compétition qu'on peut détailler à travers différentes dynamiques dont on peut voir citer si vous voulez, un petit peu les acteurs et les logiques et donc comprendre comment le sport peut évoluer. Et en s'appuyant non pas sur une volonté ou une puissance extérieure qui serait par exemple les règles de la société capitaliste, mais qui s'appuie aussi sur les logiques internes de l'activité sportive. Alors, qu'est-ce qu'on va, comme ça, on pourrait en dresser une liste bien évidemment très longue, énumérée, mais citons un petit peu comme ça quelques éléments du dispositif, quelques éléments qui soutiennent cette dynamique, finalement, cet essor de la compétition. Alors, par exemple, il y a une dynamique qui est tout à fait intéressante à analyser, je veux dire que c'est la dynamique de l'égalité. On pourrait, je dirais, à cette occasion, reprendre par exemple Tocqueville, sa description de l'essor de l'individualisme, de la valorisation de l'égalité, de cette remise en question des hiérarchies, de ce goût de la comparaison, de cette remise en question de toutes les hiérarchies injustes, etc., comme idéal des sociétés démocratiques, comme symbole du développement de la démocratie. En quoi le sport participe de cette dynamique de l'égalité? Alors, on sait par exemple que, et en quoi la compétition participe, hein, je dis sport, effectivement, la compétition, et en quoi le sport de compétition participe de cette dynamique de l'égalité? Alors, on pourrait l'exprimer, cette dynamique de l'égalité dans le sport, à travers cette formule qu'un historien américain donne. Qui veut sauter plus haut qu'un avocat blanc, hétérosexuel et membre de l'Église épiscopalienne? Ce qui veut dire une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, dans une définition première du sport, pour des raisons qui tiennent à la fois à des soucis de distinction, de préserver des privilèges, et simplement au fait des moyens dont on peut disposer, le sport n'est pas fait pour tous. Il y a des interdictions, par exemple, des interdictions faites aux ouvriers, aux salariés, de faire du sport. Les gens qui gagnent leur vie ne peuvent pas faire du sport parce qu'ils sont impurs, du fait qu'ils apporteront dans le sport cette nécessité qu'ils ont de gagner leur vie et qui font qu'ils transformeront le sport en quelque chose qui dépendra d'enjeux économiques. Des interdictions raciales. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, jusqu'aux années 60, on trouve des interdictions de compétition entre blancs et noirs. De même, les femmes dans le sport occupent aujourd'hui une place assez modeste, et on sait, dans tous le début du sport, soit pour des raisons culturelles. Les jeux populaires font aux femmes une place tout à fait limitée. C'est les hommes qui règlent les affaires à travers la soule, ce genre de jeu. Et la place qu'elles gagneront, la gagneront de manière très très dure face aux interdits, ou en tout cas aux conseils de Pierre de Coubertin concernant le fait que la pratique sportive n'est pas bonne pour les femmes. Mais la compétition, ce principe, oblige à sortir du petit cercle. Vous ne pouvez pas en permanence considérer que la valeur reposera simplement sur le fait de rencontrer toujours les mêmes et qu'il faut justement ouvrir ce cercle pour que l'activité ait un sens. Ce qui ne veut pas dire qu'on est, je dirais, assuré dans tous les sports d'universalité. Mais vous voyez bien, par exemple, comment certains sports se sont effectivement répandus sur l'ensemble de la planète, dont on peut considérer qu'aujourd'hui tout le monde y participe, c'est le cas du football, mais d'autres sports comme le rugby sont restés des domaines petits, fermés, dans lesquels, pendant très longtemps, les anglo-saxons ont pensé qu'ils étaient les seuls dignes de pouvoir faire cette activité. La dynamique de l'égalité, qui n'est pas complète, mais en tout cas, le fait de dire au bout d'un moment à 5, on s'ennuie, même à 12 équipes, on s'ennuie, il faudrait être un peu plus nombreux pour que le rugby soit intéressant, repose sur cette nécessité que pour que la compétition fasse sortir une vérité, il faut qu'il y ait des compétiteurs en plus grand nombre. Donc, dynamique de l'égalité, on va trouver aussi lié à cette question de la compétition tout un domaine qui va consister, alors qu'on peut qualifier par exemple, pour reprendre le vocabulaire de Max Weber, c'est-à-dire le vocabulaire de la rationalisation, c'est-à-dire que le fait de la tendance à appliquer de plus en plus à l'ensemble des activités sociales un mode de calcul fondé sur le rapport entre les moyens et les fins, ce processus va par exemple s'appliquer au sport. Le fait est d'importance si on veut considérer son évolution. En quelque sorte, au départ, il n'y a que les règles qui essaient tant bien que mal de mettre en place des gens qui sont équivalents, pour ne pas qu'il y ait de grands déficits. Mais cette rationalisation, par exemple, elle va aussi impliquer un nouveau type de regard sur le sport. Si je veux obtenir un avantage dans la compétition, je vais tirer parti des règles existantes. Et par exemple, c'est pour ça qu'on passe du football où, à une époque, il y avait un nombre indéterminé de joueurs, puis à 11, 11 sur une même ligne qui court après le ballon, à des dispositifs tels qu'on peut les voir aujourd'hui, avec des spécialisations entre les défenseurs, les attaquants, les milieux de terrain, etc. Rationalisation, intellectualisation, la tactique, distanciation et contrôle. Je crois que c'est tout à fait important de mettre en relation l'évolution de la compétition et de son rapport avec le spectacle et avec, d'une certaine manière, la défense de l'intégrité physique des individus qui participent, avec tout un travail de codification pour justement faire sortir du sport toute la violence intolérable qui fait que la compétition ne pourrait pas se dérouler dans les bonnes manières. Et ceci va de pair avec tout un système, aussi très rationnel, de bureaucratisation, de réglementation, dans lesquels on dicte des codes, dans lesquels des corps spécialisés, les fédérations, mais aussi les arbitres chargés de voir le bon déroulement des matchs, s'intéressent et vont faire appliquer ces règles. Alors, on voit là aussi, on pourrait dire, la quantification. Et la performance est liée à cette possibilité et à cette valorisation de la quantification. Je compte le nombre de parties, je fais des classements, je calcule le meilleur buteur, je calcule le meilleur batteur, je calcule la vitesse la plus rapide pour faire un 100 mètres, etc., etc. Et donc j'établis un livre des records et je mets comme élément allant de pair avec la compétition, toujours ce sous-produit de la compétition, la meilleure performance possible dans cette compétition. La dernière étape, celle d'aujourd'hui, serait par exemple la rationalisation économique du sport. De même qu'un physiologiste, qu'un biomécanicien peut décrire le corps et voir l'endroit où on peut faire porter l'effort pour rendre son geste plus performant. De la même manière, aujourd'hui, une personne investissant, enfin une personne, un groupe, une firme investissant de l'argent dans un sport pourra calculer combien, et on le sait déjà, combien coûte le panier réalisé par Michael Jordan, le retour de Michael Jordan à Chicago après, dans un premier temps, puis dans son nouveau club de Washington, combien ça fait en termes de vente de maillots, etc. Toute une série, combien coûte une élimination dans une coupe, combien je perds si je suis deuxième, combien je perds si je suis éliminé, etc., etc. Et le deuxième aspect tout à fait fondamental, que je ne développerai pas ici, mais qui est tout à fait important, c'est qu'on ne peut, on doit comprendre aussi une question comme celle du dopage comme étant un élément tout à fait logique de cette rationalisation du sport, c'est-à-dire de cette utilisation et de cette idée que l'on peut améliorer par différents moyens les performances d'un individu. Le dopage, c'est ce qui est interdit. Mais je dirais, avant de penser à l'interdiction, on peut penser effectivement à ce qui permettra d'aller plus vite, d'aller plus haut, d'aller plus fort, pour reprendre la formule coubertinienne. Et tout ça, ça nous envoie, si vous voulez, quand je disais tout à l'heure, on va voir à la fois des logiques et des acteurs, ça nous envoie par exemple à le développement autour du sport, tout un corps de spécialistes intéressés au sport pour des raisons diverses, qui sont les joueurs, qui sont les entraîneurs, mais qui sont aussi les médecins, mais qui sont aussi les gestionnaires à notre époque, etc., ou les juristes. La compétition, la logique de la compétition, on peut la voir effectivement comme un élément qui va donner, qui va produire un développement interne du sport, une différenciation à l'intérieur du sport et une autonomisation, c'est-à-dire que ça représente un certain nombre de personnes, de groupes, d'institutions qui ont un intérêt collectif à ce que le sport existe tel qu'il est et respecte autant que possible les règles qu'il est censé, auxquelles il obéit. Cette compétition, elle produit aussi des effets qui sont les effets externes. Qu'est-ce que produit la compétition ? Par exemple, la compétition, elle produit une scène. Elle produit la scène qui est la scène du stade, qui est la scène des routes, par exemple, au moment du Tour de France. Elle produit un espace dans lequel vont entrer, vont se manifester des groupes qui ne sont pas nécessairement des groupes de sportifs ou des groupes qui sont impliqués de manière technique dans le développement du sport, mais qui sont effectivement ceux qui regardent le sport, ceux qui soutiennent, ceux qui assurent son marché du sport, naissant au XIXe siècle, mais en tout cas suffisant pour qu'on ait l'idée que le sport puisse devenir professionnel et attirer des foules. Donc ici, cette compétition, par exemple, le fait que dans le sport vont s'opposer des individus, mais ces individus, qu'on le veuille ou non, vont aussi opposer des collectifs, qui ont des collectifs nationaux, des collectifs régionaux, des collectifs locaux, constituent aussi un puissant élément de production des collectifs et des identités sociales. Par exemple, on peut, si on prend le cas du football, considérer que le football participe, entre autres, à la constitution d'un collectif ouvrier avec une identité spécifique, avec une manière particulière de situer par rapport à la société, le football est en quelque sorte son monopole pendant très très longtemps, et s'oppose au rugby, qui serait, ou le cricket encore plus, qui serait effectivement le sport des classes supérieures. Mais dans les deux cas, il contribue à produire ces identités fortes à côté des autres processus par lesquels se produisent les identités collectives. Un autre cas tout à fait intéressant, c'est le fait qu'à travers un domaine comme le sport, on peut aussi voir se développer, par exemple, des styles nationaux. Le sport est effectivement un produit d'exportation, c'est un produit de colonisation, mais c'est aussi à travers le sport, à travers l'élaboration d'un style, par exemple, d'un style argentin de football, que l'Argentine se place sur la scène internationale en opposition à la puissance qui n'est pas la puissance coloniale au sens où l'Argentine est indépendante, mais à la puissance qui la domine économiquement et qui est l'Angleterre, qui a exporté le football en Argentine, mais contre qui, je dirais, les Argentins vont, entre autres, manifester leur identité nationale à travers la capacité de manier le ballon et de le manier complètement différemment des Anglais et de battre les Anglais avec une autre manière d'interpréter les règles du football. Donc, On a là effectivement une scène sur laquelle vont apparaître, et notamment grâce à ce principe de la compétition qui va opposer deux équipes à une autre, et sur lequel vont pouvoir se reporter les processus d'identification, de projection sur le sport. Le deuxième aspect, c'est le fait qu'on pourra interpréter, voire dans le sport aussi, considérer que ce principe de la compétition, à travers tous les aléas de la compétition, constitue finalement une manière pour les gens qui regardent et qui aiment le sport, non seulement pour ceux qui la pratiquent, mais pour ceux qui la regardent, puisqu'il y a bien deux points de vue qui vont se constituer, celui des pratiquants et celui des spectateurs, un point de vue dans lequel les individus vont manifester des visions du monde ou s'interroger sur le monde tel qu'il est constitué et vu à travers les aléas de leurs héros sportifs, que ces héros soient des héros individuels ou que ce soit des héros collectifs. Et là, je dirais, en m'appuyant sur les travaux de collègues comme Christian Bromberger, comme Alain Ehrenberg, on peut parfaitement considérer qu'à travers la rencontre de football, à travers le match de tennis, à travers le match de boxe, vont effectivement se lire pour les personnes qui regardent ces rencontres, qui s'intéressent à ces rencontres, les valeurs et les tensions des valeurs, les tensions entre les valeurs qui sont constitutives de la société. Le sport parle de classement et d'hierarchie, il parle d'affrontement, il parle des rapports aux identités collectives, il parle de l'égalité de droit et l'inégalité de fait, il parle du hasard, qui est peut-être une manière de remettre en question les choses, il parle des avantages et des mérites de l'individu ou du groupe par rapport à la victoire, il parle de la tricherie et de la ruse comme manière de contourner les forces qui pèsent sur l'individu, etc. À travers la façon dont quelqu'un gagne ou quelqu'un perd, une collectivité ou des individus y verront une sorte de manifestation, de lecture du destin humain dans la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Troisième aspect, troisième report, si on veut, de la logique sportive sur la société, troisième manière de lire l'enjeu de la compétition, c'est effectivement qu'elle propose un modèle d'explication du social. À travers, par exemple, l'idée que le sport, c'est le modèle de la juste concurrence. Les concurrents sont égaux. On crée même des catégories pour qu'ils soient égaux. On évite de mettre des petits avec des gros quand on fait de la boxe. On prévoit toute une série de divisions de manière à ce que la compétition soit toujours la plus égale possible. C'est donc un modèle de juste concurrence. Et c'est un modèle qui est quand même tout à fait intéressant parce que le modèle sportif, c'est celui qui, à travers cette concurrence, produit les meilleurs, ceux qui ont gagné. Donc, voilà le modèle sportif. Et on peut trouver que c'est un modèle excellent pour expliquer ou maîtriser la société telle qu'elle est. En disant, par exemple, mais c'est très simple, la société, eh ben, c'est comme le sport. La société, c'est aussi des gens qui sont en compétition les uns avec les autres. Et à travers la compétition, les meilleurs gagnent. Et donc, leur victoire est légitime. Alors, pour obtenir effectivement cette victoire, eh bien, il faut travailler, il faut être engagé, il faut être performant, il faut être compétitif de manière à pouvoir, parce que soit ce modèle sportif est le modèle individuel, soit c'est le modèle collectif, nous sommes une entreprise qui a des intérêts et nous devons serrer les coudes pour pouvoir nous confronter à la compétition internationale, etc. etc. Donc il y a dans le sport apparaît ici comme une ressource pour proposer un modèle d'excellence, un modèle de fonctionnement juste d'une société en considérant que les inégalités restantes sont simplement les malheurs du destin sportif. On n'a pas eu de chance, ça sera mieux la prochaine fois. Et on verra que tout ce qui distingue la compétition sportive de la compétition réelle de la société, c'est qu'effectivement dans le sport, il y a une prochaine fois, c'est prévu, c'est dans les règlements, dans la société, la prochaine fois, je dirais, elle dépend effectivement de la manière dont on est capable de gérer l'acquis qu'on a engrangé et l'héritage et la transmission des qualités d'un individu à un autre ou la transmission d'un groupe à un autre. Donc trois manières de voir effectivement cette relation qui s'établit donc entre le principe de la compétition sportive et une manière de lire la société. Alors bien évidemment, cette vision, qui pour l'instant n'a que des aspects positifs, me semble-t-il, comporte aussi son envers. On l'a déjà évoqué. Mais c'est vrai que la compétition est liée, par exemple, notamment cette excellence, cette performance qui va dénoter l'excellence, elle est aussi liée, je veux dire, à ce qui, dans le sport, constitue finalement la démesure ou l'exigence de dépassement de soi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les frontières mises habituellement, les limites qu'on va mettre à l'action, par exemple sur le corps, vont être remises en question au nom de la performance. Donc on le voit par exemple à travers la question du dopage, qui est bien effectivement l'idée que l'on peut, à travers toute une série de techniques, transformer à volonté le corps pour obtenir un rendement meilleur de la part des individus. Mais on peut le lire aussi à travers une question qui est celle de la spécialisation corporelle des sportifs. C'est-à-dire que pour faire les sports, selon les sports, on va être amené... Alors bien évidemment, les qualités sont différentes, les qualités physiques sont différentes pour faire de la gymnastique, pour faire du rugby, pour faire de l'athlétisme, etc. Les sportifs ont déjà très souvent des caractéristiques qui les distinguent, les sportifs de haut niveau, des caractéristiques qui les distinguent des autres personnes, le rythme cardiaque, la masse musculaire, enfin toute une série de la capacité aérobique, etc., toute une série de choses. Mais bon... Mais les sports, les spécialités, surtout si on va vers effectivement cette spécialisation, cette rationalisation, va pousser vers un type de spécialisation corporelle dans lequel on va travailler spécifiquement les qualités physiques nécessaires à la pratique de ce sport. Donc là, on a un élément aussi qui est un élément discutable, si effectivement, en quoi un corps sportif est-il un corps qui est un corps qui, une fois la carrière sportive terminée, est un corps qui peut se retrouver de manière confortable et non problématique dans la société. On pourrait aussi dresser la liste des pathologies, effectivement. Il y a des pathologies sportives qui tiennent effectivement aux caractéristiques de tel ou tel sport qui provoquent tel ou tel type de trauma avec des conséquences qui peuvent être plus ou moins grandes. On peut aussi évoquer là-dedans, dans ce chapitre-là, c'est tout ce qui serait du domaine des psychologies, des pathologies psychologiques ou sociales. Par exemple, considérons que le groupe sportif est un groupe qui, pour aboutir à l'excellence à laquelle qu'on attend de lui, comme tous les gens excellents, se coupe de la société pour pouvoir cultiver cette excellence. Donc ça veut dire qu'on vit, on pourrait dire, on vit dans un petit monde, on est socialisé à ses valeurs. D'autre part, le sport peut-être plus que les autres, et encore, bon, ça serait à voir. Mais le sport, en tout cas, est quelque chose qui produit, à travers justement ce plaisir ou cette tension provoquée par la victoire ou par le challenge, est générateur d'un type d'estime de soi qui effectivement va nous poser des questions quant à la reconversion. Je veux dire, qu'est-ce que la carrière sportive est courte, c'est pas une carrière qu'on va prolonger jusque très très longtemps. Donc ici on va trouver des questions assez, on va pouvoir, si vous voulez, à travers ces autres compétitions, s'y mettre le doigt sur un certain nombre de questions qui sont des questions tout à fait importantes. Concernant justement notamment une des valeurs qui semble aller avec le sport dans la société, à savoir que le sport, c'est la santé. Or, je dirais, on peut, à travers une logique de la compétition, considérer que cette mise en relation, ce parallèle, est au moins discutable. On peut aussi, par exemple, évoquer dans ce cas-là la question de l'argent. On évoquera les sommes touchées par les joueurs, par exemple, les joueurs des sports professionnels, pilotes automobiles, footballeurs, basketteurs américains, pas français, etc. Mais à considérer qu'il y a là, par rapport justement à l'idéal démocratique, dont on a dit qu'il était quand même très très près du sport, quelque chose qui est éminemment discutable, d'autant plus discutable, alors là peut-être pas les salaires touchés par les joueurs, que le fait qu'en rentrant de façon très forte dans le sport, en participant à la rationalisation du sport, c'est-à-dire à la possibilité de quantifier économiquement, on peut craindre, et on y assiste aujourd'hui, à ce que les règles économiques prennent le pas sur les règles sportives. Par exemple, si vous voulez, qu'au nom de la, du rendement médiatique, on considère que les règles de jeu doivent changer pour que ce soit plus excitant, que par exemple, seuls les clubs qui sont assez méritants pour mettre beaucoup d'argent dans la compétition devraient jouer ensemble pour s'éviter tous les risques de la défaite en rencontrant quelques pouilleux jouant sur un terrain pouilleux, mais qui ce jour-là, pour faire une performance justement, aurait mis tous les moyens pour vous battre et vous aurez sorti. Et vous, ayant mis tous ces millions sur cette équipe, vous seriez un lamentable perdant qui trouve ça tout à fait injuste dans la mesure où il a beaucoup investi pour le sport. Donc on a ici tous ces... Et ça lié effectivement, bien sûr, à la logique de la compétition, hein, parce que la compétition, à ce moment-là, n'est plus entre le club comme entité sportive, mais le club comme entité économique qui doit, sur un marché, assurer la rentabilité de son titre. D'autant plus, ça vous le verrez, je pense, la prochaine fois, que certains clubs sont déjà introduits en bourse et qu'on souhaiterait, beaucoup de clubs souhaiteraient pouvoir aussi aller en bourse. Bon, je n'insiste pas sur ces points, ou plutôt, bon, je vais assez vite simplement pour arriver à ma conclusion, qui est de dire, enfin, qui serait de proposer finalement. Trois points. Le premier, ça serait de considérer, de pouvoir répondre un petit peu à quelques-unes des questions qu'on a posées. Est-ce que le sport est un appareil idéologique d'État ou un opium du peuple ? C'est discutable parce que on ne sait pas trop ce qu'on produit dans le sport. Je veux dire, on produit à la fois, on produit de la discipline. Ouais, les gens produisent de la discipline, oui, parce que les gens ils respectent les règles du jeu. Bah oui, mais est-ce que les règles du jeu sportif sont des règles qu'on applique comme ça, tout bêtement, la vie sociale, quand on va travailler et tout ? C'est pas tout à fait sûr. C'est vrai qu'on exporte un sport quelque part, mais ça vous revient éventuellement dans la figure parce que chez qui on a exporté, ben, vous utilise ce sport pour manifester son identité nationale. La France a connu le cas avec, par exemple, la défection des joueurs algériens au moment de la Coupe du Monde de 1958. Bon, toute une série de choses comme ça qui rendent le mécanisme de domestication qui va de pair avec cette vision discutable. Est-ce que c'est une illusion ? L'illusion voudrait dire que lorsque les gens regardent le sport, ils croient exactement à tout ce qu'ils y voient. Donc on peut penser, l'observation notamment pour celle que j'ai pu faire et celle que par exemple Christian Bourmoget a pu faire, montre qu'au contraire, le spectateur d'un match de football, d'un match de rugby, c'est quelqu'un à la fois qui est profondément investi la durée du match, mais qui en même temps a une profonde distance vis-à-vis des choses qui s'y passent. Ce qui ne veut pas dire que certaines personnes ne passent pas la frontière et sont totalement perdent tout repère en assistant à un match de football, mais que dans la majorité des cas, j'en prends l'exemple cet après-midi, le match a eu lieu, il y avait beaucoup de ferveur, beaucoup d'excitation, etc. Une fois le coup de sifflet final, tout le monde est rentré, les mains dans les poches, et a commencé à discuter sereinement de pourquoi ça avait été comme ça et pas comme ça, etc. Donc on en revient finalement à un ordre de la raison. Hein, on n'est pas dans l'illusion absolue. Mais de fait, il participe bien à la fabrique sociale, c'est-à-dire que le sport, et notamment à travers cette question de la compétition, hein, parce qu'avec la compétition, le sport met en scène quelque chose, c'est ça l'intérêt, la compétition permet cette mise en scène, donc participe à la fabrique sociale, ce qui veut dire que si le sport n'est pas un reflet, hein, je le répète, la compétition sportive n'est pas la compétition économique, la compétition sportive suppose l'égalité, la remise à zéro des compteurs après la compétition, donc les règles du sport ne sont pas les règles sociales et inversement, en tout cas dans un décalque absolu, mais par contre oui effectivement le sport est un révélateur parce que justement cette structure compétitive fait voir des choses qu'on pouvait avoir oubliées ou auxquelles on ne pensait pas. Cette question du dépassement par exemple est sans doute quelque chose qui sans doute a pris dans le sport une place tout à fait importante et qui a peut-être fait de cette notion quelque chose qui est sorti du domaine sportif et qu'on a fait un élément considéré comme un élément moteur pour développer les énergies sociales ou économiques. Mais de même que par exemple la structure compétitive, à travers l'opposition, notamment dans les sports collectifs des équipes, fait voir aussi des choses que quelquefois on avait oubliées. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui se dire ciel, les classes populaires nous ont abandonnés ou tiens, il y avait des choses auxquelles, des phénomènes d'identité, d'identitaire qu'on n'avait pas vu. Ben, on aurait regardé le football depuis un peu plus longtemps, et ben, on les les aurait vues, ces choses-là, et on n'aurait pas été surpris. Donc je dirais, quelque part, il y a dans le fait de dire, de pouvoir dire, dans certains cas, de mépriser ou de considérer que l'activité dans le sport est dérisoire, il y a aussi en même temps une forme de une difficulté, voire une incapacité à voir les choses de la société dans toute leur complexité. Donc ce qui milite, quoi qu'il arrive, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire au sport, quelles que soient effectivement, bien évidemment, la mise en question des excès, toutes les discussions qu'on peut avoir là-dessus, il y a, je dirais, cette idée, me semble-t-il, c'est qu'on est bien, comme avec d'autres activités, qui peuvent être l'art, la musique, la peinture, mais la politique, mais aussi la religion, qui sont des domaines qui définissent leurs biens spécifiques, qui caractérisent la société démocratique, une société qui est faite de séparation entre différents domaines ayant des biens spécifiques. Et donc, de ce point de vue-là, le sport est un de ces aspects qui porte sur un domaine particulier, qui suit de la confrontation physique et des propriétés qu'elle fait ressortir, et qui, de ce point de vue-là, je dirais, participe de la manière dont une société maîtrise les différents niveaux qui la composent, c'est-à-dire le niveau physique et corporel, le niveau de l'appartenance identitaire, comme le niveau esthétique, comme le niveau de la transcendance, etc. etc. Et puis donc je terminerai sur cette petite phrase d'Elias pour illustrer le propos, dans laquelle il dit la chose suivante. Dans un certain sens, écrit Norbert Elias, le champ de bataille a été transposé dans le fort intérieur de l'homme. C'est là qu'il doit se colter avec une partie des tensions et passions qui s'extériorisaient naguère dans les corps à corps où les hommes s'affrontaient directement. Les contraintes pacifiques que ses rapports avec les autres exercent sur lui s'accompagnent de troubles plus ou moins importants, de révoltes d'une partie de l'homme contre une autre. L'idée d'Elias, c'est qu'effectivement, une société qui tend à domestiquer les passions, à rechercher l'autocontrôle, à éviter, à repousser tout ce qui est l'affrontement à autrui, tout ce qui est le contact avec autrui, est une société qui produit le conflit à l'intérieur de l'individu, alors qu'auparavant, effectivement, il se résolvait dans l'affrontement physique direct. Or, l'avantage au moins symbolique du sport, c'est que la dimension de l'extériorité et l'altérité, notamment à travers la compétition, reste éminemment présent. Je vous remercie.
Ma question va commencer par une première remarque. Que pensez-vous de ce qu'avait dit M. de Coubertin, que l'important était de participer? Deuxième point, ne croyez-vous pas que le sport actuel devenu spectacle ressemble un petit peu au Panem et Circenses du bas empire romain? Ma troisième question, est-ce que cette exaltation de la compétition comme quelque chose de très important n'est pas contraire à la notion de solidarité entre les hommes?
Vous auriez la possibilité de nous redire votre première question, s'il vous plaît. Merci,
ma première remarque, c'était ce qu'avait dit Monsieur de Coubertin, qui était que l'important était de participer.
Donc j'ai entendu l'important, c'est de participer. Panem et Circenses, c'est le troisième, j'ai pas bien entendu. Vous me redirez. D'accord. Alors effectivement, oui, le Pierre de Coubertin a dit deux choses. Il a dit l'important, c'est de participer, et il a dit si plus haut, plus fort, plus vite. C'est-à-dire qu'à la fois, il a dit que ce qui était important dans le sport, c'est de prendre parti, et donc ça relativise tous les enjeux. En même temps, il a aussi donné comme maxime celle d'aller le plus loin possible. Alors, je crois qu'on a là un exemple de la manière dont, historiquement, Soulet s'est constitué le sport. C'est-à-dire que par exemple, Pierre de Coubertin, c'est aussi celui qui dénonce, à la fin de sa vie, les risques que fait courir le sport de compétition notamment quand il évoque les passions, le dopage, etc. C'est-à-dire qu'on a bien chez Coubertin, à deux moments, d'un côté, une valorisation de la compétition, et de l'autre, la prise de conscience ou la mise en garde de la nécessité de réguler. Ça, c'est tout à fait d'accord, et pour moi, ça représente bien cette espèce de tension qu'il y a dans le sport, donc, que Coubertin exprime bien, mais qu'on retrouve un petit peu chez tous les... Je dirais, à propos du sport, chez tous les gens qui ont quelque intérêt, c'est-à-dire qu'ils regardent de loin, mais qui ont mis un petit peu les pieds, c'est-à-dire effectivement cette tension, je veux dire, entre les deux. Alors c'est vrai que le fair play, c'est permettre de surmonter les deux. Le fair play, c'est le fait d'être noble dans la défaite, c'est le fait d'accepter les circonstances, d'accepter les règles de l'arbitrage. Donc c'est une espèce de manière, justement, à travers un principe de comportement, de résoudre cette contradiction. Panem et circenses, oui. Oui. C'est vrai que la comparaison est tentante de dire finalement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme les jeux du cirque. Alors ça dépend de quel jeu du cirque on parle, est-ce qu'on parle des courses de chars ou est-ce qu'on parle des gladiateurs, ce qui est un petit peu différent. La course de chars, c'est risqué, mais je dirais la mort des conducteurs de chars, ça fait pas partie du jeu, même si ça s'ajoute à l'excitation. D'autre part, il me semble que oui, ça fait penser. On dit voilà, regardez, on est en aujourd'hui, il y a des problèmes et tout, et puis, on fait un mois sur la Coupe du Monde, un mois avant, un mois pendant, et ça ressemble beaucoup à une manière de donner aux gens qui par ailleurs ont beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, de leur donner des satisfactions comme ça, un petit peu dérisoires. Moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que je ne sais pas ce que pensaient les Romains de la chose. J'ai tendance à penser, justement, c'est un peu mon idée, je ne suis pas le seul, mais même les autres collègues qui ont développé ça, je pense qu'il y a dans le rapport au jeu une très très grande distance, beaucoup plus d'humour ou d'ironie qu'on voudra que ce qu'on veut bien dire, et que de ce point de vue-là, je veux dire, on n'est jamais très dupe. De la tentative un peu grossière de vous faire avaler le pain amer à travers avec les satisfactions comme celles de la télévision. Mais la tentation existe. Le troisième point, je me souviens plus que
vous auriez la possibilité de nous redonner votre troisième remarque, s'il vous plaît, monsieur.
Ma troisième remarque était que l'exaltation de la compétition que pratique le sport n'est-elle pas très peu compatible, pour ne pas dire plus, avec la notion de fraternité humaine et de solidarité du fort avec le faible ?
D'accord, oui, donc là, oui, c'est la compétition comme contradictoire avec la fraternité humaine. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que ce que développe un peu l'idée de compétition, c'est que la fraternité, elle n'est pas donnée, elle est à construire. Et que, par exemple, la compétition peut aussi être envisagée dans la mesure où c'est une confrontation entre égaux et où, dans la mesure, alors là, on peut faire preuve d'idéalisme, mais je veux dire, on reste bien dans le cadre de principes comme ça qui peuvent fonctionner et sur lesquels on peut se guider. Idée, que étant une compétition entre égaux, la reconnaissance, la compétition assure une reconnaissance des deux participants, d'autant plus qu'on est bien dans un domaine dans lequel on ne tue pas l'autre. Ça, c'est quand même une chose qu'il faut avoir en tête. Ça peut arriver, je veux dire, mais ce n'est pas le but de l'opération. On n'est pas dans les jeux grecs, par exemple, où les choses étaient possibles. Et de ce point de vue-là, si la fraternité est un horizon, la compétition sportive, à travers ce qu'elle essaie de faire, se constituer un petit peu comme ce qui est à construire à travers ce passage par l'affrontement qu'assure la reconnaissance de la valeur réciproque.
Revenir sur l'aspect sponsor, l'État est sponsor aujourd'hui puisqu'il attribue des privilèges particuliers aux sportifs de haut niveau. Et deuxièmement, le sport est également récupéré par l'État, par le civisme, puisqu'on prétend que le respect des règles et de la discipline serait éventuellement une solution au problème des quartiers difficiles, pour rester dans le temps. Et alors, si on peut parler d'histoire, je dirais que c'est le cas actuel de la République française, mais ce fut aussi le cas de l'État français. Je ne voudrais peut-être pas m'étendre sur une période discutable et discutée, et ce fut également le cas de la France de la Première Guerre mondiale, où le problème sportif était très lié à la performance militaire.
Alors là, sur cette question, effectivement, un des aspects que produit la création d'un espace sportif, c'est bien évidemment aussi la tentation d'y participer. C'est pas seulement une tentation, c'est une réalité. Parce que cette compétition, on disait tout à l'heure, elle se lie dans la société à travers la compétition économique, mais elle se lie aussi à travers la compétition internationale. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, très fortement, l'URSS, les États-Unis, puis les différents pays, les pays émergents, tout ça se sont donné des politiques sportives parce que le sport était une manière de se placer sur la scène internationale. Donc, de ce point de vue-là, l'État, en France et dans beaucoup de pays, joue un rôle tout à fait considérable. Le deuxième aspect, c'est que, effectivement, on est là dans cette. Je dirais un petit peu dans le. La tentation, là encore, j'utilise beaucoup le mot tentation, là, c'est la fatigue là, qui me fait utiliser les mêmes mots. Le fait de face à des problèmes, de considérer qu'il peut y avoir comme ça des réponses simples. Alors c'est vrai que le sport, justement, c'est le sport parce que le sport, il y a des règles, parce que le sport, ça crée de la fraternité, au bout du compte, hein, ou en tout cas de la communion. Eh bien, je veux dire, quand il y a des questions de comme ça, on dit problème du lien social, incivilité, on dit, ben voilà, le sport, c'est très simple. Or, en fait, ce que, historiquement, le sport, s'il a pu jouer un rôle de fabrique de la société, il l'a joué parce que il était simplement qu'un des éléments à côté d'autres, c'est-à-dire à côté de la création d'un marché national, à côté du développement de l'industrialisation, de l'urbanisation, du développement de l'école, etc. Toutes choses qui faisaient que le sport était un des éléments par lesquels on devenait membre de la société. Donc, si effectivement on considère le sport, comme on a pu considérer la culture une décennie auparavant comme étant des moyens de résoudre ce type de problème, ben là effectivement, je veux dire, on peut l'interpréter soit comme une erreur de jugement, soit comme une tentative de faire passer les vessies pour des lanternes, par exemple. Bon, on peut dire les choses comme ça. Donc, ce problème. Alors, maintenant, sur la question de la... J'y réponds de façon un petit peu différente au troisième point. Sur les rapports entre les politiques, notamment des États, donc dans le cadre des guerres ou dans le cadre de régimes très autoritaires, la question de la compétition. Je crois qu'il faut comprendre que voir que historiquement, par exemple, 14-18, c'est pas la compétition. 14-18, c'est la gymnastique, c'est les sociétés de tir. C'est pas la compétition, c'est pas le football, c'est pas le rugby, c'est pas le basket qui n'existe pas encore d'ailleurs à l'époque. C'est pas ça. C'est la gymnastique et le tir. C'est ça qui est censé préparer la revanche contre l'Allemagne. Parce que je pense qu'il y a une des questions comme ça, mais je ne sais pas ça. Je ne sais pas si d'autres ont traité cet aspect. C'est le rapport qu'il y a entre la compétition et des régimes autoritaires. Moi, j'ai un petit peu l'impression que la compétition, qui est quand même quelque chose de gratuit, parce que quand on dit sport de compétition, qu'est-ce qu'on condamne dans un sport de compétition ? C'est que la seule finalité, c'est de t'attraper le ballon et de le mettre ailleurs, ou de courir plus vite. Il n'est pas question d'être en meilleure santé, il n'est pas question d'être meilleur citoyen, il est simplement d'être le meilleur sur l'activité. Et de ce point de vue-là, tout régime qui veut être profondément éducateur trouve que la compétition, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement conforme. Alors qu'éventuellement, on en fasse quelque chose pour amuser le bon peuple, on peut toujours avoir cette idée-là, mais ce n'est pas quelque chose qui est intégral véritablement dans l'idée de la production d'un homme nouveau. L'homme nouveau, on ne le produit pas par le sport, pas par la compétition, on le produit par les exercices qui permettent d'agir sur les individus directement. Pas sur quelque chose où la médiation de l'équipe, du collectif, vient introduire un petit raté dans la mécanique. Une équipe de foot, on peut, par exemple, on l'a vu hein, dans différents pays, le ministère de l'Intérieur peut avoir son équipe de football, etc. Mais justement, il y a une équipe de football, c'est-à-dire que les autres, elles sont contre le ministère de l'Intérieur. Et le prix qu'on a à payer, c'est que l'équipe de foot, elle sera contre l'équipe qui représente l'État. Donc il y a dans la compétition quelque chose qui peut s'en arranger, hein, mais je veux dire quelque chose qui dans le fonctionnement d'une dynamique totalitaire, fonctionne pas très bien. Un beau stade avec des gens qui font les mêmes gestes, ça c'est beau. Mais un match où deux équipes se rencontrent et éventuellement se tapent dessus parce qu'elles représentent des choses, l'une représente un certain rapport au régime et l'autre un autre rapport, ça fait désordre. C'est plus compliqué, enfin à mon avis c'est toujours pareil, c'est un peu plus compliqué que la simple manipulation.
Oui, je veux savoir, dans le domaine de la performance absolue, c'est-à-dire comme l'athlétisme, la course, les lancers ou le cyclisme, enfin, je vais prendre plutôt cet exemple-là, on peut s'interroger sur les seuils physiques, les maximums, hein, dans le contexte situs, altius, fortus, d'ailleurs, qui est une phrase de Maxime de Didon et non pas de Coubertin. Donc, cette logique, elle a amené, dans le cyclisme en tout cas, elle amène actuellement, je crois, la faillite du monde du cyclisme professionnel. Donc, on est loin des vertus de la performance. Et ce qui est terrible, c'est que, en contre-coup, c'est des difficultés, du discrédit aussi pour le monde amateur, pour le cycliste, les cyclistes du dimanche matin à Longchamp. Hein. Et on est loin de certains idéaux, de certaines valeurs véhiculées par nombre d'auteurs sur ce sujet-là, sur le vélo.
Oui, vous avez raison dans ce sens où effectivement, lier par exemple compétition et performance a un sens, mais qu'en même temps, c'est vrai que le sport étant très très divers, la notion de performance a un sens quand même très très différent, va acquérir un sens très différent selon les disciplines. Et donc va mettre chacune des disciplines face à des exigences qui vont être particulières. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, le principe du record de l'heure, par exemple, ou des choses comme ça, sont effectivement des instruments qui ne se mesurent pas de la même façon que la question de la compétition. Et le record en athlétisme, là aussi, qui ne sont pas des sports d'affrontement direct, sont des sports d'affrontement indirect. Donc là pose la question de la différence et du record de manière un petit peu différente. Par exemple, ne serait-ce qu'en athlétisme, peut-être pour les courses rapides, vous pouvez battre un record dans une compétition où l'enjeu c'est de gagner la médaille, par exemple. Mais vous risquez aussi pour un certain nombre de distances de ne battre des records que lorsqu'il n'y a pas véritablement d'enjeu de victoire à la fin du 1500 ou du 5000, parce qu'en fait la course va être préparée pour battre le record. Donc je veux dire, on a dans certains cas comme ça on va avoir dans le fonctionnement des sports une contradiction entre un principe de compétition où c'est la vérité du tour de piste, etc., qui va l'emporter, qui va être contrebalancé par la question de la performance, c'est-à-dire du record, où là on se bat pour le record et non pas précisément pour la victoire. C'est un autre type, c'est quasiment un autre type d'épreuve qui se déroule. Donc là, c'est vrai que il y a beaucoup de distinguos et de limites à apporter à des propos là qui peuvent effectivement paraître un peu généraux. Hein.
Patrick Mignon, merci beaucoup.